entrer, difficile de prévoir tout ce qui arrive au monde arabe. On savait bien entendu qu'il y avait un malaise, que la jeunesse souffrait de problèmes économiques et sociaux de plus en plus graves, qu'il y avait une demande dans nos sociétés de liberté, de plus grande démocratie. Mais qu'il y ait un mouvement populaire de cette envergure, je crois, est un événement qui a surpris beaucoup de monde.
Alors, ces mouvements ont été accueillis le plus souvent avec sympathie dans le reste du monde. On a parlé de printemps arabe, on parle toujours d'ailleurs de printemps arabe. Et puis, on a commencé à s'inquiéter, surtout après la victoire du parti Ennahdha en Tunisie, par exemple, ou après l'annonce par le président du CNT en Libye de l'adoption de la charia comme loi essentielle. Alors, monsieur Mitri, y a-t-il de quoi avoir peur? Le printemps arabe aurait-il des effets pervers?
C'est-à-dire, juste l'appellation printemps arabe suggère que toutes les promesses, voire tous les rêves sont permis. Or, les changements n'arrivent pas d'un jour à l'autre. Il y a souvent des attentes déçues. Il y a une réalité qui dissipe parfois l'enthousiasme des rêveurs et des révolutionnaires. Cela est vrai partout dans le monde. Il n'est pas moins vrai dans le cas du monde arabe. Et on oublie souvent que tous les changements révolutionnaires, mais dans le cas du printemps arabe, largement non violents, passent par une période de transition. Cette période de transition peut durer. Le changement n'arrive pas d'une manière immédiate. Et les personnes qui se sont battues n'avaient pas de programme bien défini. Les forces politiques, à l'exception de quelques-unes, s'organisent maintenant. Des nouvelles élites politiques sont en train d'émerger. Tout ça prend beaucoup de temps. Alors, on est dans l'incertitude. Certains sont dans l'inquiétude, que je comprends, que je respecte. Mais moi, je préfère avoir un regard sur les incertitudes, moins marqué par la peur, qui est souvent irrationnelle et qui accélère l'avènement de ce dont on a peur.
Alors, Monsieur le Ministre, vous êtes sur Radio Vatican, on en arrive à la question qui nous préoccupe, une des questions qui nous préoccupe. Est-ce que les printemps arabes peuvent aggraver la situation des chrétiens dans les pays concernés? Et est-ce que les chrétiens, on va poser la question clairement, est-ce que les chrétiens ont encore un avenir dans cette région du monde?
Vous savez, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on entend des voix des amis des chrétiens du monde arabe, des amis occidentaux, qui annoncent l'éradication définitive de la présence chrétienne dans cette partie du monde. Et je crois que tout cela nous a fait du tort parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à croire que l'avenir n'est pas à eux, qui se préparent soit à partir, soit à se replier sur eux-mêmes au point où, sans le vouloir, ou peut-être même sans le savoir, ils réalisent ce dont ils ont peur. Ils répondent à la marginalisation par l'auto-marginalisation. Moi, je suis de ceux qui pensent que toutes les possibilités sont ouvertes et tout dépendra, bien entendu, des chrétiens eux-mêmes, mais aussi des musulmans. Il n'y a pas de fatalité. L'engagement des chrétiens à construire ou reconstruire des nouvelles sociétés, un nouvel ordre politique, jouera un rôle déterminant dans la construction de leur propre avenir. Depuis le début du XXe siècle, les chrétiens du monde arabe n'ont jamais pensé leur avenir indépendamment de celui de leurs compatriotes. Notre avenir est tributaire de celui de nos collectivités nationales. Maintenant, mutatis mutandis, les musulmans ne peuvent aussi, en tout cas dans les pays où il y a des minorités chrétiennes importantes, ne peuvent pas construire leur avenir indépendamment de celui des chrétiens. La présence chrétienne, l'avenir des chrétiens est peut-être un problème pour les chrétiens eux-mêmes, mais c'est aussi un défi pour les musulmans. Comment faire afin que chrétiens et musulmans puissent ensemble construire un avenir est un défi que nous confrontons tous. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un islamisme intolérant va gouverner le monde arabe. Il est évident que les organisations islamiques ou islamistes sont organisées, sont mieux préparées que d'autres organisations politiques. Cela est certainement le cas en Tunisie, il l'est peut-être aussi en Égypte, sont mieux préparées à gagner les élections, si vous voulez, mais à elles seules, ces forces ne sont pas capables de gouverner, ne seront pas capables de gouverner. C'est des forces qui devraient chercher le compromis avec d'autres. Je crois que tout dépendra, pour ce qui concerne les chrétiens, de leur capacité à se positionner comme acteurs politiques avec les autres dans ce processus de reconstruction démocratique.
Vous avez évoqué le rôle joué par les chrétiens au début du siècle dernier dans les mouvements d'indépendance, dans la pensée nationale arabe. Reste que quand on voit la multiplication de partis, disons, qui se réclament de l'islam, ou quand on voit qu'on parle de charia tout naturellement, comme si c'était inévitable, on a l'impression que l'émancipation, le mot n'est peut-être pas juste, mais enfin l'avenir des nations arabes passe aussi par l'islam, s'identifier avec l'islam.
C'est-à-dire, il ne faudrait pas s'accrocher d'une manière historique à des idées qui ont été les nôtres au début du siècle, dans un contexte précis. Je sais bien que maintenant, il ne suffit pas de se réclamer de cette sensibilité de la Nahda du début du siècle, il faudrait aussi prendre conscience des menaces réelles qui pourraient peser sur les minorités religieuses au cas où une frange de l'islamisme, la frange la plus radicale de l'islamisme, se sent en mesure d'imposer des mesures donc restrictives, oppressives, qui toucheraient aux chrétiens. Donc il faut tenir compte de cette nouvelle réalité, mais en tenant compte, il ne faut pas perdre le sens du discernement, parce qu'il y a dans cette montée de l'islamisme quelque chose d'identitaire. Ce n'est pas un projet politique construit, les islamistes changent, ils sont en train de changer, ils vont changer inévitablement, je ne pense pas qu'avec des slogans relatif à l'application immédiate et totale de la charia, que les frères musulmans en Égypte ou à Mahda de Tunisie vont résoudre tous les problèmes économiques, sociaux et politiques de leur pays. Même si à court terme, il y a une sorte de force de cet appel à l'application de la charia, moi je pense que dans les années qui viendront, les islamistes eux-mêmes seront acculés à revoir leur projet politique à la lumière des problèmes qu'ils seront appelés à résoudre. Et puis, n'oublions pas qu'au sein de la dite mouvance islamique, il y a un débat sur toutes ces questions. Je pense plus particulièrement en Égypte, où il y a un débat sur l'État. S'agirait-il d'un État, bien entendu, on n'utilise jamais le mot laïque dans ce pays comme l'Égypte, mais on utilise la notion de l'État civil ou de l'État constitutionnel. Il y a un document d'Al-Azhar, qui est quand même l'institution la plus légitime et la plus crédible en islam sunnite, en tout cas en Égypte. C'est une institution qui jouit d'une très grande crédibilité. Et on produit un texte où il est question seulement d'un État qui s'inspire des principes généraux de la charia, mais qui donne aux assemblées élues par le peuple le droit de légiférer. Donc la notion de souveraineté du peuple, par opposition à cette vision archaïque où seuls les textes religieux sont fondateurs de la loi positive, c'est une nouveauté dans le monde musulman. Et je crois que les chrétiens doivent en tenir compte. Je fais un appel donc au discernement, il ne faut pas faire des amalgames. Vous savez, c'est très facile de dire, charia opprime les minorités, alors tous les partis qui se réclament de l'islam et font la moindre mention de la charia seraient menaçants pour l'avenir des chrétiens. Il faut nuancer tout cela, mais surtout participer à des débats réels. Ce ne sont pas des débats intellectuels seulement. Mais je prends l'exemple de l'Égypte. La Tunisie, il n'y a pas de minorité chrétienne concernée, mais je prends le cas de l'Égypte. En Égypte, il y a un débat vigoureux sur ces questions et les chrétiens y participent. Il faudrait que plus les chrétiens y participent, plus on a des chances de trouver, bien entendu, des compromis et puis laisser l'avenir nous permettre de changer, de reconstruire.
Si vous permettez, j'avais envie de vous poser une dernière question, monsieur le ministre. Est-ce que vous pensez que l'Occident a le droit et le devoir d'intervenir dans les affaires du monde arabe. On se pose la question, on s'est posé la question au sujet de la Libye, on se pose la question au sujet de la Syrie, on se pose la question aussi quand on prend trop la défense des chrétiens, on finit par les marginaliser, par les isoler encore plus. Alors, est-ce qu'il faudrait que l'Occident soit un peu plus discret et laisse faire ?
Pour ce qui concerne les chrétiens, je ne pense pas que dans le monde moderne, enfin dans les 30 dernières années, l'Occident n'a ni voulu ni pu intervenir pour soutenir les chrétiens ou défendre les droits des chrétiens quand ils sont menacés. Et quand il le fait, quand certaines personnalités politiques le font, cela est souvent contre-productif. Donc l'histoire du soutien occidental aux chrétiens d'Orient, c'est plus un mythe qu'une réalité. Maintenant, le problème de l'intervention est un double problème, à la fois moral et légal. Le droit international n'est pas encore clair, je dirais, sur la légalité d'une intervention. Et il y a assez d'arguments en faveur d'une ingérence humanitaire, l'obligation de protéger les populations civiles, par exemple. Donc là, c'est un argument qui va en la faveur de l'intervention. Mais il y a aussi des arguments qui relèvent de la Charte des Nations Unies, dont un des piliers est la souveraineté des États, qui rend l'intervention étrangère pratiquement illégale. Donc c'est une question qui n'est pas tranchée sur le plan légal. Mais sur le plan moral, tout ce débat autour du droit d'intervention est un reflet laïque d'un débat que nous autres chrétiens avons connu depuis Saint-Augustin, le débat autour de la guerre juste. La plupart des arguments de ceux qui sont en faveur des interventions motivées par la protection des minorités ou des droits de l'homme ou l'opposition au génocide, tout cet argumentaire puise dans la théorie chrétienne de la guerre juste. Et je crois qu'il y a une obligation morale de protéger la population civile. Maintenant, moi je suis de ceux qui font la distinction entre l'obligation de protéger la population civile qui est menacée par des régimes dictatoriaux et sanguinaires et celle d'intervenir pour changer un régime. Le cas de la Libye est un cas d'école parce que au début c'était une intervention dans le but de protéger la population civile qui était effectivement menacée par la folie de Kadhafi et de son armée. Mais plus l'intervention se déroulait, plus elle a pratiquement contribué au renversement de ce régime. Donc elle a été un peu au-delà de ses objectifs. On est dans une zone grise, si vous voulez. Ce n'est jamais très simple, des situations pareilles.
En Syrie, on parle de 3500 morts, et donc la question est aussi posée. Hein. On peut se demander, est-ce qu'il faut intervenir dans ces cas-là ?
Oui, vous savez, l'opposition syrienne et les jeunes qui sont dans les rues, qu'on tire dessus, la population civile dans les villes qui sont pidonnées, ne font pas appel à une intervention étrangère. C'est le régime qui veut discréditer l'opposition en l'accusant de faire appel aux puissances étrangères. En réalité, tout ce qu'ils demandent, c'est des mécanismes d'observation qui permettent d'assurer une plus grande protection de la population civile. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu dans les textes de l'opposition une référence à l'intervention. Mais plus les choses continuent, plus la violence de l'État contre le peuple syrien s'accentue, plus ce besoin de protéger la population civile se fera entendre. Bien entendu, le Conseil de sécurité en ce moment est divisé là-dessus, donc il est difficile de s'attendre dans le prochain avenir à ce que cet appel soit entendu.